J'appelle au sujet de l'émission hier sur France 2 de Yann Arthus Bertrand. C'était une émission écologique sponsorisée par une marque automobile, Lavage Auto. Alors l'un c'est un gros pollueur et l'autre un gros consommateur futile d'eau. Ça rejoint bien l'émission de hier matin de France Inter sur l'utilisation du phénomène écologique par les marques qui veulent se racheter une virginité. Bon, ah, j'ai oublié, tous à Villefranche de Lauragais le 6 mars prochain pour le procès des faucheurs volontaires. C'était Joël du Tarn qui roule en 4x4. À l'huile de tournesol, bien sûr.
J'appelle parce que je suis en train d'écouter l'émission comme tous les jours et je commence à en avoir marre des gens qui se vantent d'aller dormir dans les tentes pour soutenir les SDF. Moi, je pense que pour soutenir les SDF, s'il y a une chose intelligente à faire, ce serait de les inviter chez soi au lieu d'aller dormir avec eux. Ce dont ils ont besoin, c'est pas que les gens fassent comme eux, c'est d'un toit pour dormir. Donc, ça commence à m'énerver, cette histoire, et je comprends pas que les gens qui pensent rendre service en faisant ça osent même s'en vanter, alors qu'ils pourraient aussi très bien inviter les gens à dormir chez eux. Ça, ce serait vraiment de l'aide. Donc, voilà, ça m'énerve. Voilà, au revoir, bonne émission.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Ici, c'est Dany du repère d'Aix-en-Provence. Pour répondre au formidable succès du repère d'Aix-en-Provence, nous avons décidé de faire deux repères par mois. Donc c'est les deuxième et quatrième mardis du mois, c'est-à-dire pour le mois de janvier, les 9 et 23 janvier, toujours au café-restaurant Le Bulldog, place Miolis, dans le centre d'Aix. Soyons nombreux, donc le mardi 9 janvier à 19h30, nous débattrons des institutions. À très bientôt.
Oui, bonjour, je m'appelle Bernadette Dano, j'habite à côté d'Aix-en-Provence, je suis une fidèle auditrice de votre émission et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était très bien et que je remercie tous ces gens qui prennent des risques pour aller manifester. C'est grâce à eux que les choses avancent et je trouve qu'ils ont beaucoup de courage de risquer comme ça des coups, des amendes, des jugements au tribunal pour le bien de tous, et que même si ce sont, qu'on n'a pas à les critiquer, à dire que ce sont des ceci, des cela, des bobos, après tout, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'ils manifestent un mécontentement général et qu'ils obtiennent des résultats. Merci, au revoir.
J'ai eu la chance d'écouter et d'entendre hier l'émission d'hier et d'aujourd'hui sur l'action directe non violente. J'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt et j'ai été surpris de ne pas entendre mentionner la lutte du Larzac, la lutte des paysans du Larzac qui a duré 10 ans et qui a occupé plusieurs centaines de militants pendant ces années-là. Voilà, mais je n'ai pas pu entendre le tout début de l'émission d'hier, donc peut-être j'ai loupé à ce moment-là. Merci en tout cas beaucoup pour tout cela. Je suis moi-même faucheur volontaire et ça m'intéresse énormément.
Voilà, alors c'est un petit message pour avertir les auditeurs de là-bas si j'y suis. Tous les enfants de Don Quichotte sont installés à Lyon, place Bellecour. Voilà, il y a quelques temps de place Bellecour, à côté de la Grande Roue. Donc voilà, vous êtes invités à aller les voir et à partager un moment avec eux. Voilà, le mouvement s'amplifie et c'est très bien comme ça. Voilà, au revoir.
Entendu à France Culture hier 18h.
Vient ensuite le regroupement hétéroclite d'une dizaine d'investisseurs qui participeront à hauteur d'1 200 000 euros. Parmi eux, des hommes d'affaires, Pierre Berger, André Rousselet, Henri Sédoux et Bernard-Henri Lévy. Enfin, Suez est attendu pour une participation estimée à 300.
Tu vois, Daniel, que t'es injuste, il n'est pas seulement philosophe, écrivain, notre homme, il est aussi investisseur et homme d'affaires. Ou philosophe d'affaires, ou investisseur, écrivain. C'était Paul. Ciao.
Bonjour, ici c'est l'emmerdeur pour le Rwanda. Monsieur Mermet m'a répondu l'autre jour quand je me posais la question quant aux motivations profondes du juge Bruguière pour noyer la vérité en impliquant Paul Kagame dans le déroulement du massacre, ce qui équivaut, je le rappelle, à incriminer Georges Clémenceau pour la Shoah à cause de la dureté du traité de Versailles. Monsieur Mermet donc me répondait que tout cela était très compliqué. Oui, oui, très très compliqué, tellement compliqué que dans le fond, on se demande si ça vaut bien le coup de chercher ce qui motive une personnalité comme celle du juge Bruguière pour lancer une campagne de déni, de désinformation, voire de négationnisme. Eh bien, j'ai découvert avec une grande satisfaction que je n'étais pas le seul à me poser cette question. Ainsi, je lis dans Le Monde daté du 7 janvier un article de M. Philippe Bernard. Je cite « Comment expliquer que le magistrat ait mis si longtemps à boucler son enquête alors que tous ces éléments publiés à l'époque dans Le Monde en étaient réunis voici 2 ans et demi ?» demande le journaliste. Qui continue ainsi, la proximité de la présidentielle française et le passage de témoins à des responsables politiques non impliqués dans les événements de 1994 et moins enclins à protéger leurs acteurs français sont des explications possibles, sans déconner. L'annonce d'une probable candidature de M. Bruguière pour l'UMP aux élections législatives éclaire ainsi ce curieux timing. Pour les dirigeants rwandais, l'ordonnance du juge est l'un des rouages d'un plan politique. Voilà, quand l'odeur est par trop pestilentielle, il semble que certaines narines frissonnent. Merci, au revoir.
D'accord, d'accord, critique sur le juge Bruguière. N'empêche que ça ne nous donne pas la vérité pour l'instant sur ce qui s'est passé ce 6 avril 1994 à Kigali, cher ami auditeur. On n'est pas sorti de l'auberge rwandaise, étant donné le nombre de dossiers auxquels aucun chercheur, aucun enquêteur n'a pour l'instant accès. Et c'est une histoire bien complexe, j'y insiste, sans évidemment, comme vous, prendre la défense du juge susnommé. Mais on en parlera demain, dans La Basse, j'y suis, parce que demain, on retrouvera l'équipe du Monde Diplomatique, et Anne-Cécile Robert, l'une des journalistes du Monde Diplomatique, nous parlera longuement du papier de Colette Brackmann publié dans le numéro du Monde Diplomatique de ce mois de janvier, qui vous fera plaisir parce qu'il abonde dans votre sens, si je vous comprends bien, ami auditeur modeste et génial que vous êtes. Merci à tous. Oui, effectivement, vous avez vu que le quotidien Libération va se recentrer à gauche. Recentrer à gauche avec, oui, effectivement, des participations au capital dont on vient d'entendre les noms, dont M. Bernard-Henri Lévis, qui prouve bien que, et on n'en avait jamais douté, c'était vraiment un homme de gauche. Aujourd'hui, à la langue, le langage, bien sûr, l'entourloupe langagière, la concurrence non faussée, vous vous souvenez, la concurrence non faussée, c'est une auditrice qui rappelle ça dans une petite carte charmante, c'est sympa comme tout, on reçoit plein de petites cartes de vœux. En ce moment, je voulais vous remercier à tous, je ne sais pas du tout si on pourra vous envoyer à nouveau des cartes en retour. Dans tous les cas, je vous remercie tous, et celle d'Andrea Constantini est particulièrement mignonne, parce que c'est des vieilles cartes postales avec de la neige collée sur un petit pont, des petits nuages, des petits arbres morts, enfin comme quand on était petit. Et puis il y a un texte qui dit « Sonner clairon, jouer trompette, voici l'an nouveau ». Voilà, ça c'est de la vraie poésie. Et c'est des mots aussi. C'est des mots, on va s'occuper des mots aujourd'hui. Il y a la musique, bien sûr. La musique de la langue, c'est pas forcément la musique, c'est pas forcément avec des instruments de musique. Là, ma voix suit une musique qui est la mienne, qui cherche à vous séduire, qui cherche à vous embobiner, qui cherche à faire tout pour que vous restiez boulonné sur derrière votre transistor jusqu'à 16h. Mais vous allez voir que je suis pas le seul et qu'il y a musique et parole. Et quelle parole et quelle musique et de quel homme il s'agit, eh bien vous allez le découvrir juste après ce message parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Gourmand et gourmande de Lille, bonjour. Nous nous retrouvons donc ce lundi 8 janvier à 20h. Vous pouvez bien entendu apporter votre galette. Vous serez accueillis comme des rois et des reines au café L'Imaginaire, 5 places de Louise de Bétigny, dans le Vieux-Lille. Je répète, lundi 8 janvier à 20h. À bientôt.
Mes chers compatriotes, naturellement, c'est Daniel Mermet pour une nouvelle émission de Là-bas si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Cette indissociable mosaïque qu'est notre patrimoine culturel est en elle-même riche d'enseignements pour l'avenir. Et l'heure est plus que jamais à l'intégration dans la communauté nationale.
Jacques Chirac, Antenne 2, 11 février 1988.
Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Portugais et des Polonais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des noirs. Si vous ajoutez le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français, sur le palier, il devient fou.
Jacques Chirac, déclaration à Orléans, 16 juin 1991.
Même les plus distraits, même les plus étourdis d'entre vous, même les plus ignorants ont reconnu la voix qui vient de nous parler et a reconnu dans la voix qui vient de nous parler deux moments de la pensée du propriétaire de cette voix. Il y aurait comme une sorte de contradiction. Cette contradiction n'est pas unique dans le discours de celui qu'on vient d'entendre. Oui, c'est notre président de notre République, Jacques Chirac lui-même. Cette contradiction n'est pas la seule. Dans son discours, on peut dire qu'elle constitue l'une des contradictions, mais il y en a comme ça énormément. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est la lecture d'un ouvrage absolument formidable qui s'intitule « Paroles de président » d'un certain Damon Mayafre. Il s'appelle comme ça, ce gars-là, Damon Mayafre. Et il s'est attaché, vous allez voir comment, à décrypter les paroles de notre président entre 1995 et 2003. Entre 1995 et 2003, Damon Mayafre s'est aperçu que le président avait prononcé 816 discours et prononçant 1 545 000 mots. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces 1 545 000 mots, ce Damon Mayafre? Eh bien, il a mis tout ça dans un ordinateur, il a passé tout cela au crible d'un ordinateur. En fait, Damon Mayafre est un chercheur. Tout ce qu'il y a de sérieux, tout ce qu'il y a de scientifique, et il ressort de ce passage dans l'ordinateur, non seulement évidemment des tics verbaux, comme nous en avons tous, celui qui vous cause par exemple doit en avoir pas mal, mais beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça, beaucoup plus loin que ça, ce chercheur a trouvé des mots qui reviennent, des mots qui ne sont jamais prononcés. Entre ces mots les plus prononcés et des mots qui ne le sont jamais, eh bien, il se pourrait bien que l'idéologie d'un homme qui prétend ne pas en avoir apparaisse tout simplement. Les mots du président de la République, dont on peut résumer le discours à ces actes, des mots.
Aujourd'hui,
je serai le président de tous les Français.
Naturellement.
Tous les Français.
Notamment.
Jacques Chirac, le micro de Radio France Périgord.
Tous les Français.
Je me répète,
mais enfin,
il vaut mieux cela que de me contredire.
Mes chers compatriotes,
un extrait de la déclaration.
Je serai le président de tous les Français. De tous.
Écoutez
les
la réponse de Jacques Chirac.
Je mesure la difficulté de la tâche qui nous attend.
Chirac a déclaré également que pour
tous les Français, je veux tout un État, je veux tous les Français.
Écoutez par exemple ce que disait la PPDA le 14 juillet.
Nous devons faire
un État
vigoureux.
Jacques Chirac fait un signe bref à son service d'ordre. Il traverse la rue et va dialoguer avec les manifestants.
Naturel.
Un État vigoureux. Un État impartial. Un État exigeant.
J'ai raté le début de la discussion télévisée du chef de l'État. Et bien la
veuve. Je serai le président de
la France.
Damon Mayafre. Là, on est à l'Université de Nice.
Oui, je suis chargé de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle Basse Corpus et Langage. Alors, il y a des branches qui travaillent sur la dialectologie, sur la diachronie linguistique, sur l'énonciation, sur le contact des langues.
Beaucoup de gens autour de plein d'ordinateurs dans un petit bureau.
Et oui, effectivement, il y a donc un laboratoire de linguistique qui travaille sur les corpus et qui essaie d'articuler une réflexion théorique, donc de linguistique, et un travail sur des données précises, en l'occurrence, moi, un corpus de textes politiques.
Ben dis donc, hein. Oh là 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 là. On est chez c'est le gars qui vient avec une blouse blanche, vous savez, pour les enzymes ou pour le dentifrice, pour nous dire à quel point c'est sérieux et important. Ben c'est sérieux et c'est important. C'est Damon Mayafre, donc dialectologie, diachronie linguistique, énonciation, laboratoire, base, corpus et langage. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, ce qu'on fait là, c'est qu'on va quand même s'amuser et puis on va apprendre beaucoup de choses en s'amusant avec ce chercheur dans ce laboratoire de linguistique. Je vous le disais, Damon Mayafre a mis 1 545 000 mots prononcés par le président de la République dans son ordinateur en utilisant la technique de la logométrie. Vous savez, on le dit toujours, vous n'êtes pas assez objectif. Ça arrive assez souvent qu'on le dise à la base. Vous n'êtes pas objectif. Il faut bien dire que, je l'ai assez répété, nous sommes des imparfaits de l'objectif, mais au moins chez nous, c'est revendiqué. Et on sait ce que c'est que l'objectivité. C'est un leurre, et c'est un déguisement, et c'est un paravent de la manipulation. Nous sommes, nous autres journalistes, mais pas seulement, Bourdieu nous l'avait dit, des manipulateurs manipulés. C'est le cas aussi des chercheurs, et de tout un tas de gens sur cette planète aujourd'hui. Il y a ceux qui l'ignorent, il y a ceux qui font semblant de ne pas le savoir, etc. Mais il y a une technique. Lorsqu'on cherche quelque chose, c'est de poser d'abord une hypothèse, et c'est-à-dire une conclusion, on commence par la conclusion, puis après on va chercher tous les arguments, tous les éléments qui vont donner raison, qui vont conforter cette conclusion. C'est ce que l'on appelle, dans le langage scientifique de quelqu'un comme Mayafre, c'est l'hypothético-déductif. Eh bien, lui, il a trouvé une autre technique, celle d'un objet. L'objet est objectif. Et l'objet, c'est l'ordinateur. Et donc, pour étudier la langue du président, les mots du président de la République, il a renversé la méthode.
L'objectif suprême de la logométrie, c'est de renverser la méthode hypothético-déductive qui domine dans les sciences humaines ou dans le journalisme politique. C'est-à-dire, vous avez une hypothèse de travail, je ne sais pas...
Je dois faire un papier pour montrer que Chirac change tout le temps d'avis.
Par exemple, vous allez chercher dans un discours les moyens de vérifier cette hypothèse de travail. Or, à l'analyse scientifique, en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a au moins deux dangers. D'abord, c'est de toujours trouver ce que l'on cherche.
Quitte à occulter plein de détails qu'on refuse de voir.
Et alors, ici, l'ordinateur n'a pas d'a priori, et donc traite avec une humeur égale, j'allais dire, l'ensemble du texte, et fait ressortir simplement ce qui est objectivement caractéristique de Chirac. Alors, si vous voulez, je vous montre une des productions de ce laboratoire, c'est ce logiciel qui s'appelle Hyperbase, qui a été élaboré par Étienne Brunet et qui aujourd'hui est un outil, je crois, très performant pour analyser le discours littéraire ou le discours politique, pour aller au plus près de sa composition linguistique, pour mettre à jour la rhétorique des présidents, éventuellement leur manipulation. Vous pouvez les vérifier. Alors là, vous voyez plusieurs boutons s'afficher.
Spécificité, graphique, liste, distribution, factorielle, arborée, phrase clé, corrélat,
etc. Et spécificité, par exemple, ce sont donc tous les mots sous forme de liste, je vous les montre ici, qui sont repérés comme discriminants, ici, de Jacques Chirac, par rapport à ses prédécesseurs.
Qu'est-ce que ça veut dire, discriminant ?
Discriminant, c'est-à-dire que c'est le mot qu'il surutilise le plus. Donc, vous voyez, le mot le plus discriminant de Jacques Chirac, c'est naturellement. Ici, on le voit s'afficher, depuis 1958. Il y a 1319 fois le mot naturellement. Or, Jacques Chirac monopolise 555 occurrences de ces 1319. Là, il y a un critère statistique qui marque combien cette surutilisation dans le discours de Chirac est anormale. Et à partir de là, à partir du moment où, en aveugle, Hyperbase repère ce mot comme anormalement utilisé par Chirac, moi, il faut que je trouve une explication. Alors, évidemment, je suis un petit peu sur un chemin de crête entre donc, la science et la citoyenneté, mais j'avoue que ça ne me dérange pas du tout. Et j'essaye donc de mettre toute la rigueur possible pour faire parler, au fond, les discours politiques.
Mes chers compatriotes, de métropole, d'outre-mer, de l'étranger. À la veille de l'année 2007, qui sera particulièrement importante pour l'avenir de notre pays, pour une Europe politique, pour une Europe de l'ambition économique et du progrès social, pour une Europe qui nous protège. La France y prendra naturellement toute sa part.
Nous devons réduire les dépenses de l'État. Ce qui ne veut pas dire naturellement réduire la situation des fonctionnaires ou les traitements des fonctionnaires.
Jacques Chirac, entretien télévisé, 26 octobre 1995.
Elle est en France naturellement une très bonne justice. Elle a des défauts. Et ces défauts, il faudra les corriger.
Jacques Chirac, entretien télévisé, 14 juillet 1998.
Alors voilà, voilà un premier résultat, le mot naturellement. Le mot le plus employé par le président de la République, c'est le mot naturellement. Combien de mots différents a-t-il employé dans la période étudiée par notre chercheur Damon Mayafre? Eh bien, le président de la République, Jacques Chirac, a utilisé, en l'espace de 7 ans, 13 200 termes différents, c'est-à-dire moins que François Mitterrand, qui lui en a utilisé 15 200, mais plus que le général de Gaulle, qui lui, dans une période analogue de 7 ans, en utilisait 12 000. Sauf que les mots sont différents. Sauf que les mots sont différents, les plus utilisés et les moins utilisés, ou les pas utilisés du tout, parce qu'il y en a évidemment. Et c'est d'après ces quantités de ce retour de mots, cette fréquence, que il le dit bien d'ailleurs Damon Mayafre, hein, c'est il a d'un côté il est un scientifique et d'autre côté il est un citoyen, et c'est la rencontre entre une subjectivité citoyenne et la froideur, la géométrie du scientifique qu'il produit le sens qu'il nous propose et qu'il a proposé en priorité à Guy Ventil.
C'est-à-dire que vous pouvez mesurer, Damon Mayafre, vous pouvez mesurer avec cet outil comment la com a pris le dessus sur l'action politique.
Complètement. Le discours aujourd'hui, on le voit bien, le discours présidentiel n'a plus besoin d'être compris, il a simplement besoin d'être reconnu. Mais la substance même, le contenu, le dire du discours, lui, disparaît. Et alors, chez Jacques Chirac, c'est très significatif, dans la mesure où c'est un discours constamment de l'esquive. C'est un discours qui masque ses mobiles idéologiques. C'est un discours qui dit toujours « je ne fais pas d'idéologie, je ne fais pas de politique ». Il le dit, Jacques Chirac le dit. C'est au fond son idéologie, et surtout l'ordinateur n'est pas dupe. Et va retrouver l'idéologie, on va dire, conservatrice, libérale, qu'il y a derrière. J'aime bien donner cet exemple. Les deux mots caractéristiques de Chirac, parmi tous les autres, c'est naturellement un et aujourd'hui. Vous l'avez d'ailleurs devant les yeux.
Ah, voilà la liste. Ça, c'est...
Ce sont les mots, voilà, que l'ordinateur repère comme étant typiquement chiraquien. Vous voyez la liste, naturellement, aujourd'hui, notamment. Vous voyez le troisième.
Ça, c'est les trois mots que Chirac prouvait, comme ça, noir sur blanc, les trois mots que Jacques Chirac prononce le plus
par rapport aux autres présidents. Mais vous voyez la vacuité du discours, naturellement, aujourd'hui, notamment. Si je vous montre les mots caractéristiques de De Gaulle, vous allez avoir peuple, état, destin, régime, univers, nation. Hein, vous voyez la tonalité du discours qui a été complètement modifiée.
Voyons par exemple Mitterrand sur le...
Alors Mitterrand, c'est très impressionnant. On peut regarder ici aussi. Le premier mot caractéristique de Mitterrand, c'est « je ». Hein, donc c'est à partir de Mitterrand qu'il y a cette mise en scène de la personnalité du président dans ses discours. Donc « je », et puis regardez ensuite « j'y apostrophe » et « m », et puis « moi ». Hein, donc grosso modo, François Mitterrand utilise un « je » tous les 45 mots pendant 14 ans.
À la veille de l'année 2007, d'ici aux élections, je voudrais vous dire ce soir quels en sont, à mes yeux, les enjeux majeurs. Le premier, c'est l'unité et le rassemblement autour des valeurs qui font la France. La liberté, l'humanisme, le respect, et notamment le respect de la diversité et des différences. N'écoutez pas les apprentis sorciers de l'extrémisme.
Naturellement. 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 Naturellement.
Surprenant. On aurait pu penser que le mot le plus fréquent, le « moi, je », eh ben c'était de Gaulle. « J'ai dans la légalité », etc. Eh ben non, non, c'est Mitterrand. C'est une approche, une technique, et pour tout dire, une science qui n'était pas possible avant, avant l'ordinateur, avant de disposer de logiciels assez puissants pour broyer tout ça, pour enfin broyer c'est beaucoup dire, mais utiliser tout ça et pondre de tels résultats. Il y a des langues de bois, mais il y a des bois différents, il y a des bois de tout un tas d'essences différentes et de sens différents. Et puis il y a des langues de sûre, on pourrait dire, et puis qui sont même plus des langues de sûre, qui sont des langues de poussière naturellement.
Donc là, il suffit que je demande naturellement. Et il va me ressortir, et là c'est quand même intéressant, toutes les citations. Donc vous voyez,
1319 fois il apparaît ce mot-là.
Ce mot-là, oui, alors depuis 1958.
Nos présidents depuis 1958 voilà, nous l'ont dit 1319 fois.
Voilà. Donc vous voyez De Gaulle, et puis ensuite Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, et puis nous allons arriver à Jacques Chirac. Il y en a beaucoup, hein, puis voilà.
Et voilà, Jacques Chirac.
Alors, à propos du naturellement, quand même, il y a l'usage rhétorique que Chirac en fait lorsqu'il se sert de ce mot pour articuler deux pensées contradictoires et faire apparaître cette contradiction comme, tout au contraire, comme une évidence. Lorsqu'il y a une contradiction, une difficulté dans le discours, eh bien, il va asséner un naturellement qui va lui permettre de dépasser cette contradiction ou donner l'impression de dépasser. Il affirme en gros, il faut réduire la fonction publique, ce qui ne veut pas dire naturellement réduire le nombre de fonctionnaires. Donc là, il a dit deux choses à peu près contradictoires ou très difficilement conciliables, mais il a donné à cette contradiction une apparence d'évidence absolue. Si, d'un point de vue linguistique, on pourrait aller un peu plus loin, s'il avait remplacé ce naturellement par un « mais » concessif, il faut réduire la fonction publique, mais nous ne devons pas réduire le nombre de fonctionnaires, il aurait pointé dans son langage la difficulté. Il aurait attiré l'attention sur un peu la contradiction, sur la nuance, sur la difficulté. Avec le naturellement, ça va de soi. Il n'y a plus de contradiction. L'air de rien, derrière ce mot, se dévoile l'idéologie, on va dire, conservatrice de Jacques Chirac. Parce que faire référence à la nature des choses versus la culture, c'est évidemment un luxe que peut se permettre simplement un président ou un homme politique qui est soucieux finalement de conserver l'ordre établi. Il y a une nature des choses qui s'impose. C'est comme ça, on ne peut pas le changer. Inutile de faire de la politique, inutile évidemment d'avoir une utopie politique. Il y a des choses qui sont évidentes et qui ne peuvent pas être discutées. Voilà. Et on le voit assez facilement dans les discours de Jacques Chirac. D'un point de vue rhétorique, c'est évidemment l'argument massue, puisque le naturellement clôt toute discussion. Il y a des choses qui sont, je le répète, retranchées de la discussion même, que l'on ne pourra pas changer.
Je vois au hasard vraiment la liste. Naturellement, il faut du courage. Naturellement, il faut du temps. Naturellement, c'est impopulaire.
Etc, etc. Alors, c'est très amusant parce qu'on a beaucoup, les journalistes ont beaucoup insisté sur le fait que Chirac pouvait mentir ou dire le tout et son contraire. Dans le discours, c'est très difficile, quand on fait une étude exhaustive sur la période 95-2003, comme j'ai pu le faire, de mettre vraiment en contradiction Jacques Chirac. C'est beaucoup plus difficile qu'on pense parce que les contradictions se nichent à l'intérieur d'une même phrase, d'un même paragraphe. C'est-à-dire que d'emblée, avec le plus grand naturel, il a dit le tout et son contraire. Et donc c'est très difficile de le prendre à défaut.
Il faut avoir des principes si l'on veut gouverner sainement une démocratie. La dissolution n'a jamais été faite dans notre Constitution pour la convenance du président de la République.
Jacques Chirac, entretien télévisé, 14 juillet 1996.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Jacques Chirac, allocution télévisée, 21 avril 1997.
Damon Mayaffre, dans ce laboratoire donc, du CNRS, je rappelle qu'on est à Nice, que vous travaillez sur la linguistique, la logométrie. En gros, c'est un outil que vous avez là pour mettre à jour les ficelles de la rhétorique politique.
Entre autres, alors ça n'a pas que cette vocation, hein, Hyperbase n'a pas que cette vocation, mais effectivement, je m'en sers en partie pour ça, et d'autant plus volontiers, j'allais dire que je sais qu'aujourd'hui, le discours est très construit, et je ne pense pas qu'une telle récurrence, ici naturellement, là d'aujourd'hui, ailleurs de notamment, chez Mitterrand de jeu, etc., une telle récurrence soit le fait d'un hasard linguistique. Oui. C'est que derrière, il y a une stratégie, peut-être même des fois inconsciente, ça je l'exclus pas, mais il y a une volonté politico-linguistique.
C'est ça. Trois options possibles, en gros. Si Chirac répète aussi souvent aujourd'hui, ou si Chirac répète aussi souvent naturellement, ou bien c'est calculé, ou bien c'est malgré lui, c'est sa psyché qui parle, ou bien il a peu de vocabulaire.
Oui, alors moi j'exclus la troisième hypothèse. Je pense pas que la pauvreté du discours de Jacques Chirac soit le fait d'un homme qui dispose de très peu de mots. Je pense que c'est une volonté délibérée pour rendre son discours accessible à tous, un discours qui a une fonction de lien avec les Français, un discours qui reflète l'opinion, une fonction donc qu'on peut appeler fatigue, un peu à l'image du halo que vous avez au téléphone. Halo ne dit rien. Hein, mais il établit un contact. Et ben finalement, lorsque
c'est une convention de langage.
Une convention de langage. Lorsque Jacques Chirac vient à la télévision, d'une certaine manière, il vous dit simplement allô. Vous voyez, je suis là. Vous pouvez vous reconnaître en moi. Je suis le président de tous les Français. Répète-t-il. Et voilà son.
Il fait un peu comme Hugo Chavez qui fait son émission hebdomadaire Allô Presidente. On dit je suis là. C'est bien moi le pouvoir politique. J'incarne la présidence.
Alors sauf que je connais pas les textes de Hugo Chavez. Mais au fond, oui, c'est un peu tragique là aussi pour notre démocratie, mais le discours politique n'a qu'une fonction iconique de reconnaissance. C'est un icône que l'on voit, qu'on place à la télévision, et les gens le reconnaissent plus que le comprennent.
On a dans notre pays le pouvoir de changer de vie.
Le demeurer, notamment aujourd'hui, mondialisation, naturellement démocratie riche d'enseignement, insécurité, aujourd'hui, notamment en cas de prise d'otage, aujourd'hui, démocratie, jeune,
la République,
je me répète, mais enfin,
naturellement, notamment, la France,
il faudra le contredire,
naturellement, nous devons faire, aujourd'hui, insécurité, il faudra.
10 ans de discours présidentiels, 10 ans des discours de Jacques Chirac, passés au crible de l'ordinateur d'un chercheur, Damon Mayafre. Alors, on a vu, voilà, les mots les plus utilisés sur ce 1 545 000 et quelques mots qui ont été passés dans cet ordinateur. Le premier, le plus utilisé par Jacques Chirac, c'est naturellement. Le deuxième, aujourd'hui. Le troisième, notamment, etc. Opposition entre nature et culture. C'est-à-dire que si, effectivement, comme beaucoup l'ont observé, on est en présence d'une non pas d'un caméléon, mais vraiment d'une girouette. Une girouette, ça tourne sur un axe. Et il y a un axe à cette girouette. Il y a d'ailleurs un autre chercheur qui a sorti un bouquin formidable aussi, mais qui est un peu différent, c'est un angle un petit peu différent, c'est Yves Michaud, un livre qui s'appelle Chirac dans le texte, La parole et l'impuissance, où là aussi, il relève toutes les... C'est un travail aussi formidable, mais il relève toutes les contradictions, les retournements de veste selon les opportunités, les nécessités du marketing politique, mais il y a un axe qui est celui d'un homme absolument conservateur, très très conservateur, comme Damon Mayafre le pense, c'est l'une des conclusions qu'il nous propose. Alors l'un des mots qu'on retrouve très souvent aussi dans cette langue présidentielle, c'est le mot « mondialisation ».
Mondialisation.
Alors voyons les autres mots de la liste que vous avez.
C'est vraiment la facilité du logiciel. En quelques clics, alors vous voyez, il y a naturellement, aujourd'hui notamment, il y a mondialisation aussi, qui serait un thème qui est peut-être le terme et le thème le plus intéressant de tout le discours de Jacques Chirac. Donc je vais vous montrer. Donc les 79. Et donc là,
voilà, des bouts de discours de Chirac qui arrivent.
Alors vous voyez, c'est un terme très précoce chez Chirac. Il apparaît le 14 mars 1996. Donc pour vous donner une idée, c'est presque 2 ans avant la création d'Attaque.
Et c'était 2 ans avant Seattle.
Et 2 ans avant Seattle. Donc vous voyez, c'est très précoce.
La réponse que je donne et que les Européens doivent donner, ce n'est naturellement pas de contester la mondialisation qui est un fait inéluctable.
C'est de faire en sorte que l'on bénéficie des avantages importants qu'elle ne manquera pas d'apporter, mais également de refuser la fatalité qui impliquerait, sur le plan social, sous le terme de flexibilité ou d'autres mots de la nature. Donc vous voyez, là aussi, c'est la première, mais on pourrait continuer. C'est une pensée, je disais dialectique, enfin, qui manipule plusieurs idées, la crainte et l'espoir, le côté inéluctable aussi, évidemment.
C'est la mondialisation. Non, mais oui.
Complètement. Deuxième citation, ce qui veut dire que nous souhaitons accepter la mondialisation, mais en maîtriser les effets.
C'est-à-dire que la mondialisation, mot qu'il a utilisé 79 fois, déjà, vous pouvez nous dire que c'est le seul président à l'avoir prononcé, de la Ve République, et vous pouvez mesurer le contexte dans lequel il l'emploie.
On va le faire en direct, alors. Ouais. Donc, il suffit d'aller demander le contexte du mot « mondialisation ». Donc les 79. Alors vous voyez, l'univers lexical du mot mondialisation va se dessiner comme ça, instantanément et en toute rigueur. Et regardez, ce sont les 3 mots qui sont statistiquement attirés par le mot vedette. Donc ici, mondialisation. Tout est dit. Mondialisation attire en premier à lui maîtriser, le mot maîtriser.
Donc, quand Chirac prononce le mot mondialisation, il y a une forte probabilité qu'il dise derrière qu'elle est maîtrisée.
Ou qu'elle doit être maîtrisée. Okay. Tout à fait. L'autre mot, c'est inéluctable. C'est-à-dire que là, effectivement, on est dans la phase du constat, c'est-à-dire qu'on a affaire à un phénomène qui est inéluctable. Et donc, à partir de ce moment-là, la seule chose qu'il convient d'essayer d'entreprendre, c'est de maîtriser ce phénomène et non pas de le combattre. Mmh. Et puis, le troisième mot qu'attire mondialisation, c'est danger. Donc, vous voyez, c'est un terme, pas altermondialiste, mais très engagé, très à gauche, en soulignant avant tout le côté dangereux. Pour résumer les choses, ça se fait toujours en 3 temps. Les dangers de la mondialisation sont regrettables, mais c'est un phénomène inéluctable, deuxième mot. Donc, il convient de la maîtriser. Alors, c'est beau comment l'ordinateur est capable de décortiquer le message chiracien. C'est pratiquement systématique, c'est toujours dans le cadre d'une démonstration dialectique. Je suis pour la mondialisation, mais je ne suis pas pour. Constamment, les dangers de la mondialisation, mais aussi ses vertus. Vous allez toujours trouver ce raisonnement dialectique, thèse-antithèse. C'est un peu cette façon d'avoir deux fers au feu. Alors, ceci étant dit, comme toujours chez Chirac, il faut distinguer chez lui les convictions profondes et puis l'opportunisme politique. Or, la mondialisation, on voit très bien que ça apparaît donc en 1996, au moment où il renonce au discours sur la fracture sociale. Donc, c'est un peu un thème de gauche, de substitution à celui de la fracture sociale. Ensuite, on le voit monter en puissance pendant la cohabitation et on pressent bien que c'est un moyen pour lui de doubler sur la gauche le gouvernement Jospin. Et encore aujourd'hui, lorsqu'il chevauche ce thème, on sent bien que c'est un moyen pour écraser la scène politique française et notamment ses concurrents Hollande ou Sarkozy qui, sur le terrain de la politique étrangère de façon générale ou de la mondialisation, ne peuvent pas rivaliser avec lui.
Et puis nous avons vu la mondialisation en marche. Un monde, c'est vrai, où les crises, notamment financières, se propagent très rapidement. Mais aussi et surtout, un monde de plus en plus ouvert, où tout circule, les hommes, les richesses, l'information, la connaissance. Un monde plein d'énergie, plein de vitalité, riche de fraternités à inventer.
À la veille de l'année 2007, nous vivons des changements considérables. Une économie mondiale en pleine expansion, une concurrence de plus en plus vive, mais qui nous ouvre aussi des opportunités nouvelles.
Naturellement. Notamment aujourd'hui, De Gaulle.
Elle entend le demeurer, notamment aujourd'hui.
Les mots en un, les mots du président, les mots de Jacques Chirac, vus à travers cette approche, le logiciel d'un ordinateur piloté par un chercheur qui tire ses conclusions.
Notamment la France.
Il faut me contredire.
Naturellement.
Je suis favorable
à un mandat de 7 ans non renouvelable.
Jacques Chirac, la presse de Limoges, 19 février 1981.
Il faut envisager, pour rapprocher dans le temps le pouvoir présidentiel de sa source populaire, une réduction du mandat à 5 ans.
Est-ce qu'on peut faire la même chose, par exemple, avec un autre terme qui a beaucoup servi dans le vocabulaire chiracien, qui est la sécurité ou l'insécurité?
Oui. Donc il suffit que je demande le mot insécurité. Voilà.
Voilà. Alors là, c'est au moins aussi parlant, c'est de voir à quel point Chirac a la palme, toute catégorie confondue, de l'usage du mot insécurité.
Et si vous ajoutez à ça que, en plus, ces occurrences, donc en l'occurrence 51, de Jacques Chirac sont concentrées dans la période 2001-2002 durant la campagne électorale, vous touchez du doigt le martelage lexical.
Voilà, là on a la preuve du matraquage de la campagne qui avait été construite sur le thème de l'insécurité pour que les Français votent en conséquence.
Complètement. Alors que Jacques Chirac, je pourrais vous donner les chiffres, en 1997 ou 98, il n'utilise strictement jamais le mot insécurité. C'est quelque chose qui surgit au cours de la campagne électorale, on va dire. Et beaucoup plus étrange, on voit comment le thème retombe quasiment instantanément après le premier tour.
C'est-à-dire qu'en quelques mois, Chirac a prononcé plus de fois insécurité que De Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand en deux mandats réunis, et qu'après ça disparaît.
C'est un peu ça, très concrètement, très mathématiquement, vous voyez, insécurité est prononcée 67 fois sur l'ensemble du discours présidentiel sous la Ve République.
Depuis 1958, donc.
Depuis 1958, et Jacques Chirac monopolise 51 de ces 67 occurrences.
Alors, insécurité... c'est la violence, c'est 1997, vous voyez, c'est le mot qui est un des mots qui est le plus associé au thème de l'insécurité. C'est-à-dire, Jacques Chirac date l'insécurité en France à 1997.
Et 1997, comme par hasard, c'est le début de la cohabitation.
Ouais, j'y vois qu'une coïncidence, effectivement. Là, c'est passionnant parce qu'il y a un témoignage très objectif de l'ordinateur qui ne regarde même pas le sens des phrases ou des paragraphes, qui constate simplement que lorsque Chirac utilise insécurité, il utilise aussi 1997. Qu'il y a presque un message subliminal pour le citoyen qui fait que insécurité, 1997. Insécurité égale Lionel Jospin. C'est net, c'est une sortie machine qui me semble très parlante.
Voilà, ben oui, il y a un mot que vous n'entendez pas. Il y a un mot que vous n'entendez pas, que vous n'avez pas entendu, ou jamais, jamais, dans la bouche du président. C'est pas possible, ça.
Je vous ai même pas montré le plus parlant du logiciel, c'est que vous pouvez faire des graphiques. Donc, si vous voulez ouvrier, vous allez avoir là, cette courbe de fréquence. Voilà. Si vous voulez. Alors, bon, ouvrier est très peu utilisé. Donc, au total, sur l'ensemble de la Ve République, les présidents parlent que 26 fois d'ouvrier.
Ah.
Et Jacques Chirac utilise, je vous laisse lire,
0 fois.
C'est ça. C'est un mot qui est absent. Ça fait partie justement de ces mots qui sont bannis.
Alors, quand on parle de l'occultation de la classe ouvrière, pour le coup, on est en plein dedans, là.
Complètement, mais ça va même au-delà. C'est occultation de toute catégorie politique. Je vous parlais tout à l'heure de peuple. Je vous fais le graphique de peuple.
Ouais.
Vous allez voir, c'est très, très parlant. C'est un mot, je me permets de vous le signaler, sur lequel s'appuie l'ensemble de notre Ve République. Si vous regardez la constitution de la Ve République, son préambule s'appuie constamment sur ce mot « peuple » qui est répété 5, 6, 10 fois de suite. « Gouvernement par le peuple, pour le peuple ». Or, c'est un mot qui tend à disparaître dans le discours politique. Donc, je vais vous montrer sa courbe. Voilà. Donc, si vous voulez, en gros, De Gaulle l'utilise 383 fois, alors que Jacques Chirac, 4 fois moins.
Chirac l'a prononcé 96 fois.
Et vous voyez surtout ce déclin progressif.
Voilà.
Alors, bien sûr, on continue à en parler de temps en temps, notamment au pluriel, les peuples d'Asie centrale. Vous voyez sur la courbe qui se dessine à l'écran, c'est en chute libre. Vraiment, je ne sais pas que je milite forcément pour une 6e République, mais lorsqu'on voit que notre 5e repose sur cette notion, la souveraineté du peuple, et que aujourd'hui cette entité, ce mot, la référence, elle, a complètement disparu. Donc on est un peu sur du sable aujourd'hui, allez dire.
Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. Et vous savez qui y a pire ? Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité ? Ils sont intelligents, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul, on dirait, bon, bah, c'est des cons. Non. Les présidents et les dirigeants des pays qui ont laissé crever l'Afrique, l'Amérique du Sud et bientôt les Indes, c'est des gens qui le font exprès. Et vous savez qu'il y a pire. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire, ça confirme. Ils ont beau faire ceux qui croient pas ce qu'ils disent, ils le répètent tous les jours à la télé, dans les journaux. Vous savez que les hommes politiques et les journalistes ne sont pas à vendre. Hein. D'ailleurs, on n'a pas dit combien.
Naturellement.
Naturellement.
Notamment aujourd'hui, De Gaulle. Elle entend le demeurer. Notamment aujourd'hui, mondialisation. Naturellement, démocratie riche. Dans
message post-mortem de Coluche. Et évidemment, naturellement, le président n'est pas seul. Le président n'est pas seul. À côté de lui, très souvent, il y a effectivement, Coluche l'avait bien remarqué, des journalistes. Et puis, de l'autre côté de l'écran, eh bien, il y a nous. Il y a nous, ces millions de Françaises et de Français et de compatriotes qui gobons tout ça passivement, de cette démocratie monarchique dont parle très bien Yves Michaud dans son bouquin Chirac dans le texte. Eh bien, cette démocratie monarchique, c'est nous, c'est notre pays, et nous vérifions bien là ce que nous avait dit il y a bien longtemps Mirabeau, l'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles.
Oui, il y avait un truc, c'était dissolution, je voulais voir si c'est possible.
Mais vous vous prenez au jeu de cet outil de recherche. On commence à poser des questions et c'est un outil qui aide à la recherche. En l'occurrence de dissolution. Alors, donc, vous voyez là, tous les présidents en parlent. Et alors là, c'est très amusant de regarder le Jacques Chirac, puisque c'est à ce propos que je dis que le naturellement lui permet de mentir avec aplomb. Puisque là, je veux dire, ce n'est pas de la diffamation, c'est un constat sur l'écran de mon ordinateur.
Ce laboratoire du CNRS.
Tout à fait. Où on voit comment il prend position très clairement le 14 juillet 1999 contre cette dissolution. Et ensuite, il propose à l'approbation des Français, et il a cette phrase, et là ça me permet de la citer textuellement pour justement ne pas déformer ses propos. Nous avons le 5 juin 2000, un entretien télévisé, cette phrase de Jacques Chirac.
Le problème est de savoir si l'on peut réduire la durée du mandat présidentiel, ce à quoi je n'ai naturellement jamais été hostile.
Donc bon, voilà, là on est vraiment aux confins de la manipulation verbale, puisque donc c'est un déni quelques mois après sa prise de position contre la dissolution. Mais ce que je veux montrer, moi, au fond ça m'importe peu, là, les conséquences politiques, ce que je veux montrer, c'est que toute cette phrase tient dans l'aplomb, dans la force que donne ce naturellement. Et évidemment, il faut quand même le préciser, c'est que cette force du naturellement ne peut fonctionner qu'avec une sorte de complicité journalistique, ici je pense que c'est Poivre d'Arvor,
qui prennent ce naturellement pour argent comptant.
Exactement, qui prennent pour argent comptant et qui se prennent garde de ne pas apporter la contradiction et démonter ce mécanisme.
Et donc, c'est-à-dire que voilà, c'est que d'accord, le scientifique que vous êtes fait ce bilan, fait cette statistique sur l'utilisation du langage chez Jacques Chirac, mais ce n'est possible, bien entendu, que parce qu'il est bien reçu ce discours, qu'on n'est pas relevé.
C'est exactement ça, et ça pose quand même des questions assez profondes, dans la mesure où la télévision, à ce moment-là, joue un rôle, la Poivre d'Arvor, qui, au fond, est notre porte-parole, lorsqu'il interroge Jacques Chirac, a un rôle considérable. Et c'est là où je pense que les dés sont pipés dans notre démocratie, puisque loin d'être le porte-parole de l'opinion publique, au fond, il est une sorte de faire-valoir du président qui s'exprime.
Damon Mayafre, pour résumer un peu, en conclusion, vous avez disséqué le discours du président et des autres, mais de celui-ci en l'occurrence. Qu'est-ce que le chercheur que vous êtes peut nous faire comme diagnostic sur notre cobaye ?
Comme conclusion, je pense qu'il y a un changement de nature du discours politique au fil de la Ve République et j'allais dire au fil de la République depuis peut-être 1870. C'est-à-dire que le discours politique n'a plus du tout la même fonction qu'auparavant. Très clairement, lorsque un radical socialiste dans un banquet, lorsque un communiste dans sa cellule, lorsque etc. prenait la parole, c'était pour confronter des idées et pour véhiculer un programme politique ou une idéologie. Aujourd'hui, on dirait que le discours politique n'a plus cette vocation-là. C'est simplement un discours donc, que j'appelle iconique, c'est-à-dire un discours qui ne cherche pas à être compris, mais simplement à être reconnu. C'est-à-dire que c'était une façon pour le président de venir à la télé et de tenir la tribune, qui plus est dans des mises en scène tout à fait ritualisées, le 14 juillet, le 31 décembre, etc. Et sous le fait des médias qui parlent leur format, la télévision par la force de l'image qui donne plus d'importance au symbole qu'au sens, par exemple, ou à la gestuelle qu'aux mots. Donc tout ça conspire à une réduction de notre parole politique, de la qualité de la parole politique. Or, on le sait, au moins depuis Périclès, toute démocratie fonctionne sur la qualité d'un message politique, sur des idéaux qui sont énoncés. Et aujourd'hui, c'est ces idéaux qui semblent disparaître, au fond, au profit d'une pensée unique qui ose même plus s'expliciter. C'est ça le plus inquiétant, c'est que non seulement on est dans une pensée unique libérale,
c'est-à-dire mais de la pensée du réalisme, de la nécessaire adaptation,
de la gestion, de la compétitivité, qui plus est, ne s'explicite plus. C'est ça le plus inquiétant. Ce n'est pas tant le contenu de la pensée qui peut inquiéter le citoyen, c'est le fait que ça ne s'explicite plus et que elle ne transparaît que sous la forme d'un bien évidemment, d'un naturellement, d'un on ne peut pas faire autre chose, ou il faudrait faire ceci, mais nous ne pouvons pas le faire, etc.
C'est-à-dire que ce qu'on mesure mathématiquement, c'est le poids de plus en plus important que prend l'évidence du sous-entendu.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, le discours des présidents de la République, que j'ai étudié vraiment par le menu, repose sur des présupposés idéologiques. Hein, parce qu'évidemment, il y a de l'idéologie derrière. Mais ce sont que des présupposés, c'est-à-dire que ce n'est jamais explicité, donc ce n'est pas attaquable. Et donc on est enfermé dans cette pensée unique. Et c'est ce qui ressort, j'ai presque même l'impression que la vocation suprême du discours présidentiel est celle-ci, c'est-à-dire empêcher les gens de soumettre à débat l'essentiel. On discute sur le secondaire, sur les modalités d'action. C'est ça l'adverbe, par exemple. L'adverbe, c'est simplement la modalisation du discours sur comment on pourrait faire les choses, voilà. Mais pas ni pourquoi et quelles sont les choses à faire réellement. Donc voilà, on est dans du présupposé idéologique, un discours de l'esquive, j'y reviens, un discours qui ne s'explicite pas. Or, il me semble qu'une conception noble de la politique est absolument l'inverse, c'est-à-dire à la fois un effacement des personnes, hein, au profit de la collectivité, au profit des partis, au profit des idées, et surtout une pensée qui s'explicite, pour être contredite, débattue.
Aujourd'hui, mes chers compatriotes, je tenais à remercier Daniel Mermet pour sa participation, notamment à l'élaboration de ce projet, n'est-ce pas ? J'entends, à partir de 2007, supprimer son émission. Naturellement,
merci, Monsieur le Président. Mais c'est en bonne voie. Merci à tous. Merci à Daniel Herzog, qui était la voix du président. Pas tout le temps, au cours de cette émission. Vous retrouvez au moins sa voix dans les guignols sur Canal. Merci à Damon Mayafre. Merci à Yves Michaud. De Damon Mayafre, parole de président, Jacques Chirac, 1995-2003, et le discours présidentiel sous la Ve République, édition Honoré Champion. Et de Yves Michaud, Chirac dans le texte, la parole et l'impuissance aux éditions Stock. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com, à la rubrique émission Là-bas, j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Serge Viguier et Mathias Alléon. C'est Yann Chouquet et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Hop, Pascariello et de Christophe Imbert, qui attend vos réponses dans le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Vos réponses, vos questions, vos coups de gueule et vos coups de cœur. 01 56 40 37 37. Demain, comme je le disais en commençant, nous recevrons l'équipe du Monde Diplomatique et nous parlerons de bien des choses. Du Rwanda, comme je l'ai dit, de l'Europe. Nous parlerons aussi du syndicalisme, de l'évolution du syndicalisme en France, de l'Inde. Un long reportage dans le Diplo de ce mois-ci sur l'Inde. Et puis, on parlera d'Internet. Et ça, c'est intéressant, l'évolution de cette révolution qui prend des tours qui étaient prévisibles, mais qu'on ne voulait pas voir tant nous étions enchantés, réclame.